Séoul au jour le jour. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de Séoul au jour le jour. À l'approche de la fin de l'année, la répartition des personnes 2025 a été publiée par Naver, la plus grande entreprise sud-coréenne d'informatique. Il permet d'analyser les données personnelles nouvellement enregistrées en ligne dans divers domaines tels que la politique, l'économie, la société et la culture, en détaillant leur profession, leur parcours professionnel et leur formation. Actuellement, il couvre plus de 700 métiers. Nous commençons l'édition de ce mercredi avec cette nouvelle. Cette année, la profession la plus ajoutée aux mises à jour est celle d'entrepreneur, alors qu'une forte augmentation des consultants et des créateurs de contenu en ligne est à noter. Mais le statut de chanteur occupe la première place. Plus de la moitié des personnes inscrites sont nées dans les années 1980 et 1990. La part de celles nées dans les années 1990, mais aussi 2000, a particulièrement augmenté. Cela reflète la tendance des jeunes à faire connaître activement leurs expériences professionnelles et leurs activités, ainsi qu'à communiquer avec le public. Le site le plus enregistré dans les informations personnelles est Instagram. La proportion des blogs et des comptes TikTok a considérablement augmenté par rapport à l'année dernière. Cela peut s'expliquer par un renforcement de la tendance des blogs chez les personnes âgées de 20 à 39 ans, ainsi qu'une préférence pour les vidéos courtes chez les adolescents et les jeunes dans la vingtaine. Les listes de professions et les critères d'inscription sont régulièrement mis à jour pour refléter les changements sociaux, les réformes légales et institutionnelles, ainsi que l'évolution des structures professionnelles. Cette année, trois nouveaux métiers ont été créés, à savoir orthophoniste, conseiller en emploi et agent de transfert technologique. Autrefois, la fin d'année était la saison haute du marché des calendriers. Mais ce phénomène se fait désormais de plus en plus rare. Depuis la pandémie de COVID-19, la numérisation et la réduction des coûts ont poussé les principaux clients, tels que les grandes entreprises et le secteur financier, à interrompre successivement leur production. Cette année, les volumes produits ont diminué d'environ 70% par rapport à leur apogée. Certaines compagnies ont même cessé totalement leur production. De leur côté, les petites et moyennes entreprises qui importaient des modèles prêts à l'emploi de Chine pour y apposer leur logo ont arrêté ou réduit cette pratique. Le déclin du marché des calendriers a provoqué une forte concurrence dans le secteur de l'impression. Comme celle-ci se fait à la demande, l'arrêt des machines augmente la charge de coûts fixe. Dans ce contexte, les imprimeurs expliquent que pour maintenir les commandes, il est souvent nécessaire d'accepter des prix inférieurs aux coûts de production. De fait, même si les tarifs ne couvrent pas leurs coûts, ils sont obligés d'accepter les commandes pour ne pas arrêter leurs équipements. De plus, il devient de plus en plus courant de recevoir les commandes à l'avance dès le mois d'août en baissant les prix. Cela ne signifie pas pour autant que l'ensemble du secteur de l'impression se contracte. Avec la diffusion de la culture coréenne, notamment la K-pop et les dramas sud-coréens, l'impression d'articles variés en petites quantités et de produits dérivés émerge comme une nouvelle source de revenus. Ainsi, malgré les fluctuations économiques et les droits de douane américains, les exportations de produits imprimés restent meilleures que prévues. Selon le service des douanes de Corée, entre janvier et octobre de cette année, elles ont dépassé 330 millions de dollars, soit en hausse de 7% par rapport à l'an dernier. Compte tenu de l'afflux habituel de commandes en fin d'année, le taux de croissance en 2025 pourrait même atteindre 10%. En plus des manuels scolaires et des brochures, les produits dérivés basés sur la culture coréenne ont particulièrement stimulé ces expéditions. Nous venons de parler de la tendance des entreprises à réduire la production de calendriers. Cependant, certaines vont à contre-courant et Kubo Life Insurance en fait partie. Cette compagnie d'assurance vie a décidé de produire pour 2026 720 000 exemplaires de calendriers papier contre 610 000 cette année, soit une hausse d'environ 18 %. À l'époque de l'utilisation des intelligences artificielles génératives et des smartphones, l'entreprise a choisi d'augmenter ses supports imprimés. Cette décision reflétait la philosophie de gestion propre à son président Shin Chang-jae. Pour lui, le calendrier constitue un point de contact direct avec les clients qui transmet l'essence de l'assurance vie centrée sur l'amour pour les voisins. Une source du secteur financier a expliqué que le dirigeant accordait une grande valeur aux aspects analogiques. Les calendriers de Kubo Life restent populaires auprès des clients. En fin d'année, les demandes affluent vers les centres de services clientèle et les agences. En outre, ils se vendent bien sur des sites de seconde main. Par ailleurs, Shin Chang-jae se demande si l'installation de grands panneaux LED, de plus en plus nombreux dans le quartier de Gwanghwamun à Séoul, où se trouve le siège de son entreprise, est conforme à la philosophie de Kubo Life. Actuellement, la compagnie publie, 4 fois par an, un verset ou une citation sur le panneau extérieur de son bâtiment. Le dirigeant a récemment déclaré que depuis 35 ans, ce panneau était devenu un compagnon des citoyens, apportant du réconfort et diffusant de l'espoir face aux épreuves. Et il s'est engagé à continuer de s'efforcer pour qu'il demeure une fenêtre culturelle. Maintenant, je vous propose de partager un des commentaires de nos auditeurs. Dans le journal du 27 novembre, nous avons relaté le décès du célèbre acteur Lee Sun-jae. À ce propos, André-Marie a laissé un message de condoléances en écrivant « Reposez en paix ». Merci beaucoup pour ce commentaire. Alors, avant d'enchaîner avec le prochain élément, écoutons une chanson. Voici « Calendar » de Yeouk.
Vous avez aimé, vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr.
Pour cette édition de Séoul le jour du mercredi 3 décembre, vous êtes en compagnie de Ko Jung-san. Avec l'augmentation du nombre de foyers ayant des animaux de compagnie, la question de bien-être et de sécurité des animaux est également devenue un enjeu social important. Dans ce contexte, les collectivités locales et le gouvernement mettent en place diverses mesures à ce sujet. L'arrondissement de Seocho prend les devants dans ce mouvement. Il a récemment décidé d'étendre l'installation des bornes de collecte des déjections canines. L'objectif est d'améliorer les inconvénients liés au ramassage des excréments produits lors des sorties des quelque 29 000 animaux de compagnie dans l'arrondissement. Selon la municipalité, il s'agit de multiplier ces bornes de manière systématique et de mettre en place un dispositif de gestion intégré. Une première dans le pays, ce nouveau système prendra en charge la collecte, le transport et le traitement en un seul processus. En juillet dernier, Seocho avait déjà installé 2 bornes de ce type dans le parc de Yangjae et le long de la promenade du ruisseau de Panpo. D'ici l'année prochaine, 8 bornes supplémentaires seront installées sur les principaux parcs et parcours de promenade. Ces collecteurs de conception adaptés aux animaux intègrent une fente dédiée aux sacs à crottes, un désodorisant interne et un système de fermeture automatique. Une entreprise spécialisée assure quotidiennement la collecte, le transport et le traitement. Les déjections recueillies sont ensuite triées, fermentées et finalement transformées en compost. Par ailleurs, en hiver, une attention particulière est requise concernant la sécurité des chats errants. Il arrive qu'un félin, cherchant à se protéger du froid, s'introduise dans le compartiment moteur d'une voiture encore tiède. Parfois, l'automobiliste démarre sans savoir que l'animal est là, ce qui peut entraîner sa mort ou des dommages au véhicule. Pour prévenir ces accidents, le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales a présenté une campagne intitulée « Tapoter sur le capot ». Avant de monter en voiture, il est recommandé de tapoter légèrement le capot pour laisser le temps au chat de s'en échapper. Le ministère a également communiqué des conseils pour la prise en charge des animaux de compagnie en hiver, ainsi que des informations sur les installations et le camping acceptant les animaux. En septembre dernier, nous avons évoqué l'affaire de vol concernant un employé de la société de sécurité d'une entreprise de logistique. Il était menacé de licenciement pour avoir mangé des collations d'une valeur d'environ 1000 won, soit 60 centimes d'euros. Le 27 novembre, cet employé, poursuivi pour vol, a finalement été acquitté. L'histoire remonte à janvier 2024. L'homme avait pris dans le réfrigérateur du bureau de l'entreprise deux gâteaux en sachet alors qu'il effectuait son travail. Initialement, le parquet l'avait mis en accusation par procédure simplifiée avec une amende de 500 000 won, soit environ 300 euros. Le tribunal de première instance avait reconnu les faits et infligé une amende de 50 000 won. Mais l'accusé a fait appel, soulignant que la confirmation de cette peine pourrait le priver de son emploi. Il a soutenu devant le tribunal que retirer des collations du réfrigérateur faisait partie des usages habituels et qu'il n'avait donc pas eu l'intention de voler. Finalement, la cour d'appel lui a donné raison. Elle a estimé qu'il n'était pas exclu que l'accusé ait agi en pensant qu'il pouvait prendre ses encas sur la base des paroles des livreurs qui fréquentaient le bureau. Même si ces derniers n'avaient pas le droit de disposer des produits dans le réfrigérateur, ils pouvaient raisonnablement croire qu'ils étaient autorisés à les offrir. Par conséquent, il était difficile d'affirmer qu'il avait eu l'intention de prendre les gâteaux contre la volonté du propriétaire. Le tribunal a également expliqué avoir pris en considération les déclarations de 39 employés. Dans une situation où l'accusé faisait l'objet d'une enquête pour vol simplement parce qu'il avait mangé des collations, ils avaient déclaré qu'ils en avaient eux-mêmes mangé de la même manière que l'accusé, au risque de se retrouver eux-mêmes poursuivis pour vol. Après le procès, l'avocat de l'employé a exprimé sa gratitude envers la cour. Si l'acquittement est confirmé, il sera enfin épargné d'une menace de licenciement. Lu Soju est l'école préférée des Sud-Coréens depuis 55 ans. Selon une enquête menée l'année dernière par Kellogg Corée sur les boissons alcoolisées les plus appréciées, cette eau-de-vie arrivait en tête avec 52%, suivie par la bière avec 38%. Au cours de ce demi-siècle, elle a connu de grands changements avec l'évolution des époques. Le recueil complet des prix, publié par le Centre d'information sur les prix de Corée et qui retrace l'évolution des prix des principaux produits de 1970 à cette année, le montre bien. En 1970, une bouteille de soju de 360 ml coûtait 65 won, soit 4 centimes d'euros. À titre de comparaison, à la même époque, 500 g de bœuf coûtait environ 380 won et 40 kg de riz 2900 won. Ce qui montre que cet alcool n'était pas vraiment bon marché pour les classes populaires. Son prix a franchi la barre des 100 won pour la première fois en 1975, après une hausse de 54% sur 5 ans. Pendant la même période, le prix du riz de 40 kg est passé à 10 000 won, soit une multiplication par 3,6. Par la suite, le tarif du soju a continué de grimper. 190 won en 1980, 350 en 1988 et 450 l'année suivante. Jusqu'en 1995, il se vendait encore dans les 400 won, avant d'atteindre 510 en 1996. La crise financière de 1998 a fait entrer le prix dans la tranche des 600 won. Et en 2004, il a dépassé la barre des 1000 won, marquant l'ère du millier de won pour une bouteille. En novembre 2025, en grande surface, il faut débourser entre 1260 et 1340 won pour en acheter une. Contrairement au prix, son degré d'alcool a constamment diminué. Dans les années 1920, le soju distillé atteignait 35 degrés, classé comme liqueur forte. Jusqu'aux années 1960, celui à 30 degrés était la norme, avant que des versions à 25 degrés apparaissent dans les années 1970, devenant le standard du soju. Dans les années 1990, des produits à 21 degrés et 23 degrés ont commencé à être lancés, marquant le début d'une véritable concurrence pour réduire le taux d'alcool. En 2006, ce dernier est tombé en dessous de 20 degrés avec une version à 19,8 degrés. Par la suite, des produits à 17 degrés sont apparus en 2014, puis à 16 degrés en 2019 pour devenir la tendance dominante sur le marché. En 2023, Sonyang Soju, une entreprise de soju locale, a mis sur le marché une version à 14,9 degrés, atteignant le degré d'alcool le plus bas du pays. Et voilà, c'est le moment de retrouver l'invité de mercredi présenté par Oh Hayoung. Avant de la rejoindre, écoutons une chanson de Eun Ji-won, Manchin Melody, Ivresse.
Chaque mercredi, vous êtes invité à découvrir une personnalité qui œuvre pour les échanges entre la Corée et le monde francophone. Vous êtes bien au 13 boulevard Yoi et vous avez rendez-vous avec Oh Hayoung.
Bonjour à tous et merci d'être venu à la KBS pour cet entretien. Pour commencer, pouvez-vous vous présenter ?
Bonjour, merci de nous avoir invités. Donc, je suis Anouk Mormal, je travaille pour la Haute École Galilée IEX. C'est une université qui se trouve à Bruxelles. Donc, nous formons des professionnels de la communication, donc tout ce qui est journalisme, radio, presse, médias, relations publiques. Donc, je suis ici pour consolider notre partenariat avec deux universités, donc IWA et Sogang Université, et aussi pour rencontrer nos étudiants en Erasmus. Dans le privé, je suis également administratrice d'un groupe de fans de Corée en Belgique et Luxembourg. Nous essayons de les assembler pour qu'ils vivent leur passion ensemble et pour les faire rencontrer. Alors, je suis venue donc avec deux étudiants, une étudiante en Erasmus et un ancien étudiant de l'IEX, mais qui est passionné par la Corée.
Bonjour, je m'appelle Anne-Claire, j'ai 20 ans et j'étudie à l'IEX. Je suis en troisième année de mon bachelor, mais je suis actuellement en échange Erasmus en Corée à l'université de Iwa. Pour un semestre. Et c'est ma première fois en Asie, donc c'est une expérience enrichissante et vraiment dépaysante pour moi.
Au suivant.
Bonjour, je m'appelle Mouidine Gündogdu, donc je suis diplômée de l'IEX. J'ai un bachelier en journalisme et un master en photojournalisme et presse magazine. Je suis actuellement journaliste et rédacteur pour des magazines français qui sont dédiés à la culture coréenne, et je suis également chef d'entreprise en Belgique.
Alors Anne-Claire, vous êtes ici dans le cadre d'Erasmus.
Alors, le programme Erasmus permet aux étudiants européens d'étudier pendant quelques mois dans un autre pays. Moi, j'ai choisi la Corée du Sud car je voulais découvrir une culture vraiment différente de la Belgique, mais c'était aussi un rêve pour moi de venir ici parce que ça fait quelques années que je m'intéresse à la culture coréenne. Et l'Erasmus, c'est aussi une belle opportunité d'échanger avec des internationaux, mais du coup ici aussi avec des Coréens et Coréennes. Et oui, aussi améliorer son anglais et pour moi apprendre un peu le coréen.
Alors racontez-nous un peu ce que vous avez fait durant votre séjour.
Principalement, j'ai suivi les cours à l'université.
Mm-hmm. Quel genre de cours ?
Des cours de communication, mais j'ai aussi pris d'autres cours pas liés à la communication. Mm-hmm. Mais à part ça, j'ai aussi eu la chance de visiter Séoul, des endroits typiques comme la tour de Namsan, le palais Gyeongbokgung, le village Hanok, etc. Et j'ai aussi rencontré beaucoup d'étudiants internationaux, mais aussi quelques Coréennes via les cours, où on a pu échanger sur nos perspectives culturelles. Nos cultures respectives. Et c'est vraiment très, très chouette.
Et vous, Méline, vous êtes donc un ancien de l'école. Et vous écrivez des articles pour des magazines culturels. Mm-hmm. Le journalisme, la culture, ça a toujours été votre passion.
Oui. Oui, ça a toujours été ma passion depuis tout petit. J'ai toujours voulu faire journaliste culturel. Mm-hmm. Et donc aujourd'hui, j'ai la chance d'écrire pour 3 grands magazines qui sont vraiment parmi les plus lus et les plus appréciés en France et dans les pays francophones. Mm-hmm. Donc j'écris sur la culture, sur les séries, les dramas, la musique, la K-pop, les concerts. Donc cette année, j'ai fait plus de 30 concerts. Mm-hmm. J'ai eu la chance d'interviewer des chanteurs et des groupes de musique connus et moins connus aussi.
Comme par exemple ?
Ben là, j'ai en septembre interviewé Wonho, du groupe Monsta X. Par avant, j'avais interviewé le groupe Trendy. Donc voilà, donc ce sont des moments vraiment qui seront toujours gravés dans ma mémoire. Mm-hmm. Parce que c'est les premières interviews, les premières rencontres avec des gens qu'on écoute, qu'on apprécie. Donc oui, donc maintenant, j'écris pour 3 magazines. Aussi bien, et j'essaye aussi un petit peu de plus se mettre à l'accent sur contenu vidéo, donc les réseaux sociaux, donc pour avoir plus de contenu, on va dire, qui pourrait intéresser les gens qui sont justement passionnés par la culture coréenne.
Oui. Est-ce qu'il y a un événement que vous souhaitez couvrir ou une star que vous souhaitez interviewer ?
C'est un petit peu cliché, mais Blackpink, qui sont vraiment, on va dire, ou les BTS, qui sont vraiment les 2 grands noms de la K-pop dans le monde. Personnellement, mon préféré, ce serait vraiment de couvrir, une sorte de faire un petit peu ce que vous faites, quoi. Donc, d'aller en radio et de pouvoir interviewer ces personnes en live et pas seulement via texte ou via mail ou via passage éclair. Donc, vraiment avoir ce moment privilégié avec l'autre, avec ces performeurs, avec ces stars et qui nous passionnent, quoi. Et ce serait vraiment le rêve ultime, quoi. De rencontrer je dirais, ma même star, mes préférées, mes idoles en vrai.
En vrai.
En vrai.
Et parmi les 4 filles
Ma préférée, c'est Jisoo.
Jisoo.
Et Rosé, à pâteau.
Pour vous, Anouk, cette venue doit être particulière, car vous êtes d'origine coréenne.
Oui, donc je suis coréenne adoptée en Belgique, donc je suis arrivée en Belgique à 9 ans. De ce fait-là, j'ai quand même des souvenirs de mon enfance en Corée, et j'ai gardé quand même aussi une culture coréenne au fond de moi. Et donc, je suis revenue en Corée en 1998 ou 1998, je suis allée pour retrouver mon papa. Donc, en retrouvant l'orphelinat, j'ai tout de suite retrouvé mon papa parce que lui, il m'a cherché pendant 20 ans. Et il a retrouvé l'orphelinat. Et chaque fois qu'il déménageait, il laissait ses coordonnées. Donc, on s'est retrouvés très vite.
C'est beaucoup de chance.
Oui, oui, beaucoup, beaucoup de chance. Et l'image de mon papa était estompée, ça, j'avais oublié. Mais quand je l'ai revu face à moi le lendemain, ça m'est revenu tout de suite. J'ai pleuré toute la journée. Et depuis, j'ai essayé de garder les contacts avec lui. Voilà. Et il y a 4 ans, j'ai également retrouvé ma maman. Et donc, découvert plein de frères et sœurs. Donc là, j'essaie donc de revenir plus souvent pour essayer de rattraper un peu le temps et de vivre ça avec eux. Donc cette année, l'université Liex m'a
confié
cette mission voilà, de rencontrer les universités ici à Séoul pour en même temps me donner l'opportunité de rencontrer ma famille. Et donc j'en suis très reconnaissante.
Que le temps passe vite. Il est déjà le temps de nous quitter. Si vous le voulez bien, retrouvons la semaine prochaine nos trois amis belges, Anouk, Anne-Claire et Mouhidine. À mercredi prochain.
Voilà, c'est la fin de cette édition de Séoul au jour le jour. C'était Koo Jong-sun avec Oh Ha-young à la réalisation. Merci d'avoir été avec nous. Excellente soirée à tous.